Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Bretagne 5. L'invité du 7-9.
Et à 8h32, notre invité ce matin est Arnaud Bonnet. Il est entrepreneur de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Il est également enseignant en communication politique à l'université de Rennes 2. Et c'est à ce titre qu'il nous rejoint au micro de la matinale en direct. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors Arnaud Bonnet, je crois que vous avez un petit problème de voix, mais on va faire tout ce que l'on peut techniquement pour que vous ne fatiguiez pas trop votre voix et que le moment soit quand même plutôt agréable au micro de Bretagne 5. Je disais en commençant que vous êtes enseignant en communication politique à Rennes 2. C'est un petit peu là-dessus que j'avais envie de vous entendre ce matin. Alors on avait plein de sujets à traiter, mais voilà, la guerre en Ukraine nous est tombée dessus, si vous me permettez l'expression. On voit un Vladimir Poutine qui a une communication politique, pour le coup, très guerrière, très décidée, très froide, très angoissante aussi, très anxiogène.
Oui, tout à fait. Effectivement, bonjour. Et effectivement, j'ai la voix un peu cassée, mais on va compter sur la magie de la radio et celle de Bretagne 5 en particulier ce matin pour que ça se passe bien. Mais oui, effectivement, bah, je crois que Vladimir Poutine montre... a bien compris que en relation internationale la question du rapport de force est déterminante et que aujourd'hui effectivement depuis ces quelques jours, ces quelques semaines même en fait où on sent que les choses commencent à mal tourner, il est dans une logique où il montre ses muscles et incontestablement il a des choses à montrer et donc on voit bien que effectivement il se sent fort et il a des raisons objectivement de se sentir fort au regard de la force de la Russie, au regard des troupes qu'ils ont à disposition, au regard de l'arme nucléaire maintenant qu'il brandit de plus en plus explicitement, et puis au regard aussi d'enjeux économiques, d'enjeux énergétiques, puisqu'on sait qu'effectivement l'Europe est dépendante de la Russie sur ce plan-là, et certains pays européens plus que d'autres, on pense à l'Allemagne. Donc effectivement, il joue à fond ce rapport de force, et ce qu'on sent bien, c'est qu'effectivement, ce rapport de force, en l'état, ne nous est pas favorable au plan européen.
Est-ce que, selon vous, Arnaud Bonnet, alors on n'a pas de boule de cristal, évidemment, mais est-ce que, selon vous, il y a une part de bluff dans le discours de Poutine, particulièrement lorsqu'il brandit justement la force de frappe nucléaire?
C'est un peu tout l'enjeu. C'est effectivement, dans une logique rationnelle, on pourrait considérer qu'il y a évidemment une part de bluff. En même temps, tous les verrous sont en train de sauter. Et ce qu'on voit, c'est que justement, on est face à quelqu'un dont on n'est pas certain de la rationalité absolue. Donc voilà, qu'est-ce qu'il joue, jusqu'où il est prêt à aller, tout ça est assez difficile à jauger. En tout cas, ce qu'on sent par contre, c'est qu'il y a une forme d'inquiétude, une forme de peur partagée par l'opinion publique, par les gouvernants sur l'issue potentielle. Et effectivement, je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui disait hier ce week-end en sortant de l'Élysée, on est dans une situation où c'est la diplomatie ou la guerre totale. Mmh. Et effectivement, dans ce contexte-là, la guerre totale, on voit bien qu'elle peut emmener très très loin et que personne n'a envie d'y arriver.
On n'ose même pas penser à citer ce mot terrible de Troisième Guerre mondiale, mais on voit quand même que Poutine, vous le disiez, Arnaud Bonnet, est assez jusqu'au boutiste. On voit aussi un homme qui a été très vite, parce qu'il y a eu cette diplomatie, ces échanges, on l'a vu avec le président Emmanuel Macron, et cette fameuse grande table, il y a aussi tout un décorum. Est-ce que justement ce décorum fait partie de ce côté imposant, j'allais dire presque terrifiant?
Oui, c'est vrai que ça a fait sourire, en tout cas c'est pas des formats auxquels on est habitué. Je pense qu'il y a sans doute aussi le rapport à la démocratie en Russie qui a des contingences, et des formes qui nous dépassent un peu, en tout cas dont on est assez étranger. Mais effectivement, oui, ça rajoute un peu de gravité en fait à tout ça, ces espèces de discussions de la dernière chance qui ont eu lieu. En tout cas, au vu de là où on est aujourd'hui, je pense qu'on peut pas vraiment reprocher le fait que ces discussions aient eu lieu. Il fallait dans ce domaine-là tout tenter probablement avec les moyens du bord, et en particulier en matière diplomatique. Et on peut imaginer que la solution elle sera diplomatique et espérer qu'elle ne soit pas militaire dans tout ça. Donc voilà. Donc évidemment, le dialogue a été et sera déterminant dans l'issue du conflit.
Est-ce qu'on peut dire, Arnaud Bonnet, que Vladimir Poutine a écrit un scénario, finalement, en y incluant cette diplomatie européenne, française, et finalement en se jouant de tout le monde et en ayant écrit son scénario pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire l'envahissement de l'Ukraine et peut-être plus ?
Si scénario il y a eu, je pense que ça fait longtemps en fait quand même qu'il y a ce sujet de la situation de l'Ukraine, de sa capacité ou non à rejoindre et sa légitimité ou non à rejoindre l'OTAN. La question s'était déjà posée pour la Géorgie il y a quelques années et ça avait mal fini d'ailleurs. Donc en fait de ce point de vue-là il y a une forme de cohérence ou d'inquiétude russe depuis longtemps à l'encerclement par l'OTAN, voilà, et les deux pays qui étaient un peu ligne rouge pour eux, semble-t-il, étaient la Géorgie et l'Ukraine. Et par contre, dans les deux cas, ce qu'on perçoit, c'est qu'on n'est pas du tout, on n'a pas du tout le rapport de force, encore une fois, pour faire respecter les frontières au niveau européen, ou en tout cas difficilement. Donc effectivement, cette ligne rouge, elle était posée depuis, enfin en tout cas évoquée depuis longtemps, et pour l'instant l'issue n'est pas favorable au plan européen encore une fois.
Alors, on entend aussi toujours là dans la communication de Vladimir Poutine, on a plutôt l'impression qu'il intime des ordres, qu'il décide, qu'il gère effectivement cette guerre qu'il a décidée. On l'entend aussi parler à la fois de revenir aux frontières de l'ex-URSS, en tout cas c'est ce qui est sous-jacent, mais on l'entend aussi parler de la Grande Russie des Tsars, et là c'est la Sainte Russie, donc elle arrive aux portes de l'Europe.
Ouais, tout à fait. Je pense qu'il mobilise une part d'imaginaire, probablement. Je pense que c'est pas un aspect qui est très traité à ce stade, la question de l'adhésion du peuple russe à cette question. En tout cas, évidemment, Vladimir Poutine, sa source de légitimité, ça doit être ça. Alors évidemment, il y a le système médiatique russe qui est très particulier, qui est en ce moment repoussé un petit peu, y compris au plan européen, puisque il y a des médias russes qu'on connaît bien, voilà, RT, pense, voilà, Sputnik, RT, Sputnik, etc., voilà. qui sont sous l'œil du cyclone. Parce qu'effectivement, la question de la manière dont ils vont traiter tout ça pose un peu question.
On a plus des médias de propagande, finalement.
Exactement. Et donc, du coup, évidemment, en Russie, c'est un autre stade. Mais du coup, évidemment, Vladimir Poutine a besoin de l'adhésion du peuple russe à cette intervention, à cette invasion militaire.
Il y a des résistances quand même. On a vu ces arrestations nombreuses à Moscou et dans diverses villes russes. Et quelques photos qui circulent sur les réseaux sociaux, on voit des fois une femme, un homme avec une pancarte contre la guerre, qui généralement, cette femme ou cet homme se font arrêter très rapidement.
Exactement. Donc effectivement, il y a de la résistance qui est très difficile à faire et à mettre en place dans les faits. Mais voilà, en tout cas, il y a un enjeu pour Vladimir Poutine en interne. Il y a un enjeu externe de se respecter, montrer ses muscles, montrer qu'il a le pouvoir et qu'il peut faire un peu ce qu'il veut. Et bon, l'instant, il a quand même une latitude d'action qui est assez folle, en fait. Et en interne, il a par contre un enjeu d'adhésion, de soutien à la légitimité de cette action-là. Et pour ça, il mobilise effectivement un imaginaire puissant, puisque ça renvoie effectivement, probablement pour le peuple russe, à des années qui sont plutôt fastes, historiquement. Donc, évidemment.
On a le sentiment aussi qu'il réécrit l'histoire à sa manière. Et on entend d'ailleurs beaucoup d'experts sur les plateaux de télévision ou à la radio qui disent Poutine réécrit l'histoire comme il veut qu'elle soit écrite. Et on se pose aussi la question de son état mental. Est-ce que, selon vous, dans la communication de Vladimir Poutine, il y a des détails qui ne trompent pas, comme on dit ?
Des détails qui ne trompent pas. Enfin, en tout cas, il est d'une froideur absolue. Il est d'une froideur absolue, en même temps extrêmement précis, méticuleux. Il y a une forme de cohérence quand même dans le temps, je disais, le rapport à la Géorgie déjà en 2014.
C'est pas un fou, finalement.
Bah, en tout cas, il y a une forme de cohérence. C'est simplement aux portes de la rationalité et de l'humanité, en revanche, ce que ça pose comme question. Donc c'est un peu tout l'enjeu de la période, c'est qu'effectivement on ne sait pas trop de quel côté il tombe, et donc encore une fois il y a une forme d'inquiétude qui est très prononcée parce qu'effectivement aujourd'hui on n'arrive pas à décrypter ça. Personne n'arrive à décrypter ça en réalité, et donc du coup personne n'a envie de prendre le risque tellement énorme, tellement coûteux, de considérer qu'il bluffe.
Alors, la France est impliquée à travers le président Emmanuel Macron, qui est aussi président de l'Europe, la présidence de la France pour 6 mois. Donc, évidemment, on a vu, on les évoquait, hein, ces pourparlers, ces négociations, ces tentatives. Et puis, il y a cette inquiétude en France. Et puis, il y a aussi ces questions, parce qu'on est à la veille d'élections présidentielles. On en parle beaucoup sur cette antenne. Est-ce qu'on peut imaginer une élection présidentielle dans une crise pareille? Est-ce qu'il faudra reporter? Est-ce qu'il faudra réfléchir? Est-ce que c'est envisageable?
Je crois que l'hypothèse d'un report de l'élection présidentielle n'est pas vraiment évoquée ou souhaitée par qui que ce soit. Compris constitutionnellement, ça semble un peu difficile. Dans la réalité, voilà, les candidats vont être officiellement validés par le Conseil constitutionnel dans quelques jours. Après, tous les candidats sont déclarés à l'exception d'un, effectivement. La grande particularité, c'est qu'on est effectivement à 41 jours d'élection présidentielle et qu'aujourd'hui, avant même finalement cette question avant même la question de la guerre en Ukraine, les Français semblent particulièrement désintéressés, éloignés de cette échéance pour la première fois depuis... Depuis le début qu'on fait des élections au suffrage universel direct sous la Ve République. Donc ça c'est un premier élément. Et donc du coup, évidemment, cette situation-là et le fait que le président de la République, qui de toute manière était dans une situation, dans une perspective de rentrer plutôt tardivement dans cette élection, va non seulement rentrer tardivement et s'impliquer sans doute modestement dans cette élection présidentielle. Donc ça, évidemment, ça va complexifier encore probablement la lecture des enjeux des uns et des autres.
Ça peut, pardonnez-moi le terme, est peut-être un peu direct, mais ça peut lui servir à Emmanuel Macron, cette situation de crise?
Politiquement, en tout cas, oui, ça renforce sa stature de président, ça renforce, les projecteurs sont sur lui, encore plus, et l'écart par rapport à ses opposants est encore plus criant, puisque c'est lui qui est aux responsabilités, c'est lui qui a les informations, c'est lui qui est au centre, et donc dans tout ça le jeu partisan semble assez difficile effectivement à exprimer, à relayer. Ça va être très difficile pour les candidats d'exister à côté du président de la République qui a cette crise tellement énorme, et ça peut effectivement renforcer un côté légitimiste, en fait, légitimiste de conforter le président en exercice en situation de crise. Voilà, le bon vieux dicton selon lequel on ne change pas de capitaine en temps de crise, voilà, peut jouer à plein, même si en 40 jours beaucoup de choses peuvent se passer, y compris sur la guerre en Ukraine. On ne sait pas exactement comment ça va évoluer, enfin, en tout cas ça évolue jour par jour, et donc voilà, beaucoup de choses peuvent se passer encore, et donc voilà, la perspective reste encore un peu ouverte.
On a ces répercussions aussi politiques sur cette campagne qui continue malgré tout, évidemment. On a vu les prises de position par rapport à Vladimir Poutine et à cette situation. Et on ressort aussi quand même un peu les cadavres du placard, parce qu'il y a eu ces déclarations de quelques candidats qui disaient « mais Poutine n'est pas dangereux, c'est quelqu'un avec qui il faut parler, etc. » Est-ce que ça va nuire à ces candidats, ces prises de position, selon vous ?
On va le voir dans les prochains jours, mais effectivement, il y a certains discours sont plus ou moins entendables aujourd'hui à la lumière des faits qui se passent en ce moment. Et donc effectivement, les positions des uns et des autres, on pense à plusieurs candidats à la présidentielle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, même Jean-Luc Mélenchon, qui ont eu des propos plutôt bienveillants, si ce n'est plus à l'égard de Vladimir Poutine, pas seulement ces derniers mois, ces dernières années.
Ceci dit, on avait François Hollande qui avait dit que Poutine ne constituait pas une menace particulière aussi, lorsqu'il était président.
Oui, tout à fait, et bien sûr, ça traverse l'échiquier politique au sens gauche-droite classique, mais en tout cas, parmi les candidats à la présidentielle qui sont impliqués dans cette échéance, on pense notamment à cela, je crois aussi Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, qui devrait avoir ces 500 signatures-là. Donc voilà, donc, évidemment, il y a quand même beaucoup, ça montre que c'est assez présent, finalement, dans l'échiquier, et que effectivement, ce discours qui était plutôt bienveillant, est assez difficilement audible face à une décision unilatérale, là, qui est incompréhensible et source d'inquiétude presque universel en fait pour la population et pour la société française, on le voit bien. Donc voilà, donc évidemment ces discours-là, et notamment parce que la mémoire des réseaux sociaux, alors là on revient à la communication politique, la mémoire des réseaux sociaux, la mémoire des prises de position des uns et des autres peut-être peut rejaillir beaucoup plus facilement et donc du coup peut-être renvoyer beaucoup plus facilement aussi. Et donc effectivement ça peut peser, effectivement leur position est beaucoup moins entendable aujourd'hui qu'hier.
Alors il y a aussi ceux qui ne sont pas forcément pour l'Europe et qui aujourd'hui voient que l'Europe, alors là en termes de communication politique, ça a été très vite. D'habitude l'Europe c'est très lent à se mettre en place, à prendre des décisions et autres. Et là on a vu en quelques heures, quelques jours, beaucoup de décisions prises très rapidement. Parfois un petit peu à l'encontre de la philosophie européenne. On pense à ces achats d'armes qui, pour la première fois, vont être faits par l'Europe pour être ces armes acheminées vers l'Ukraine. Est-ce que là aussi, il a fallu déverrouiller la communication politique de cet ensemble européen qui n'est pas toujours d'accord, qui n'a pas d'ailleurs été toujours d'accord ces dernières heures ?
Moi, je pense qu'au niveau européen, il y a deux choses qui sont frappantes. C'est d'abord la question de l'opinion publique. Je trouve qu'il y a, sur ce conflit, mais d'autres aussi, il y a une opinion publique européenne qui est unanimement outrée. Voilà. Et on le voit, voilà, ça a pris un peu partout ce week-end, des manifestations dans des capitales européennes, dans beaucoup de villes européennes, et on peut imaginer que ça puisse continuer à progresser. Et donc voilà, donc il y a un émoi européen, un élan de solidarité européen, chacun se sent concerné, parce que voilà, c'est aux portes de l'Europe, ça renvoie à chacun ce qu'il ferait dans des conditions pareilles.
C'est pas une guerre lointaine finalement.
Exactement, c'est pas une guerre lointaine, c'est très frappant et c'est très présent, et ça pour le coup ça peut peser aussi sur l'élection présidentielle, etc. Et pour revenir sur le niveau de décision européen, du coup ça pèse aussi probablement sur le niveau d'implication aussi des gouvernements et de l'échelon européen qui se dit ben voilà, c'est à nous d'agir, et donc c'est d'abord un enjeu normatif en fait, où l'échelon européen est certes politiquement faible, mais normativement, c'est un échelon important. On dit souvent que 70% de la législation nationale est issue de l'échelon européen. Et donc, voilà, il y a des capacités à agir, notamment normativement. Et donc, du coup, c'est un peu ce qui s'est passé, effectivement, très, très vite. Là, on a vu, effectivement, la présidente de la Commission prendre un volet de mesures, notamment, là, encore récemment, sur où la question est posée sur le système bancaire, sur...
Le fameux
SWIFT, effectivement, qu'on découvre ces derniers jours. L'accès au trafic aérien pour les avions russes qui est totalement arrêté. Donc voilà, effectivement, il y a normativement une capacité à agir, et l'Europe le montre, et c'est plutôt une bonne chose, et en écho du coup avec cette opinion publique qui elle est européenne, très clairement.
On a vu, vous parliez d'un discours normatif, mais on a vu aussi une forme de normalisation, permettez-moi le terme, entre pays européens. On a les locomotives, la France, l'Allemagne. Là, on a vu que l'Allemagne avait fait un peu de résistance, ne serait-ce que sur l'acheminement d'armes. L'Europe a permis à l'Allemagne de pouvoir changer sa façon de voir les choses et de participer à cet acheminement d'armes. On voit également des pays qui étaient un petit peu montrés du doigt. On pense à la Pologne, on pense à la Hongrie, des pays qui étaient quelque part un petit peu en ce moment en délicatesse avec l'Europe et qui, là, ont ouvert leurs frontières, ont décidé d'accueillir des réfugiés, et on a l'impression que l'Europe les regarde avec un petit peu plus de bienveillance.
Oui, peut-être parce que ces pays sont directement concernés. On pense à la Pologne, par exemple, qui va être qui est déjà le plus rapidement et le plus clairement exposé pour l'accueil de réfugiés. Et donc, du coup, effectivement, là où dans d'autres contextes, on pense au contexte syrien, voilà, elle était beaucoup moins allante sur l'accueil des réfugiés, où l'Europe, à l'exception de l'Allemagne, avait été plutôt timide, on s'en souvient. Là, aujourd'hui, sans doute parce que c'est plus proche et aussi parce que les pays les plus frileux à l'époque sont les plus concernés aujourd'hui, on sent bien que chacun considère que c'est une évidence. Et même si on revient sur la présidentielle française, voilà, on voit bien que même les candidats d'extrême droite considèrent que c'est logique pour le coup sur cette question-là que la France assume sa part. Donc effectivement, là, on voit bien qu'il y a une vraie évolution au regard de la proximité du conflit qui est celui-ci.
Alors, en termes de communication, il va falloir expliquer les choses. On le dit déjà à travers les médias, mais aussi à travers la communication politique et au plus haut niveau. On sait que cette crise qui se passe à nos portes en Europe, en Ukraine, va avoir beaucoup de répercussions sur la vie quotidienne des Français. Ça a été aussi un petit peu, au démarrage de cette campagne, le cœur un petit peu de cette campagne justement électorale, où on a dit, voilà, il y a le prix des carburants, il y a le prix d'énergie, ça augmente, mais là on sait que si le conflit devait durer et se compliquer, ça risque d'être encore plus prégnant pour les Français, pour se déplacer, pour se chauffer, etc. Est-ce que en matière de communication politique, et là on est vraiment sur la communication politique, est-ce qu'il va falloir vraiment sortir les bons arguments et être convaincant pour éviter une grande crise sociale?
Bah, déjà,
la question est vaste.
C'est ça. Déjà, on voit bien que sur cette question, il y a une forme de regard un peu paradoxal en fait des citoyens. C'est-à-dire que je crois que les premiers sondages sont sortis dans le week-end qui nous montrent que 6 Français sur 10 approuvent les mesures de sanctions économiques qui sont portées à l'encontre de la Russie aujourd'hui. Mais qu'en même temps, quand on leur demande s'ils sont inquiets des conséquences que ça peut avoir sur leur pouvoir d'achat, 6 Français sur 10 confirment que oui et qu'effectivement ils sont même plutôt réticents à l'idée que ça puisse avoir des conséquences sur ce volet-là. Donc voilà. Or effectivement, l'un ne va pas sans l'autre. Effectivement, on regarde cette dépendance qu'on évoquait au début. Donc voilà. Donc effectivement, il y aura des conséquences. Et aujourd'hui, il semble y avoir quand même une tendance effectivement pour accélérer ces mesures-là et donc du coup qui est assumer aussi des conséquences sur le plan du coup des coûts de l'énergie notamment et donc du coup ça renvoie par contre à la question de la transition écologique et de la justice sociale dans la transition écologique qui est un sujet qui nous porte depuis de plus en plus avec de plus en plus d'acuité depuis les gilets jaunes finalement c'est toujours la même question c'est effectivement oui il y aura un surcoût et la question mais qui effectivement indépendamment de cette crise là puisqu'en fait des crises on a celle là mais on est dans un régime de crise un peu permanent finalement depuis 5 ans du terrorisme depuis 2015 aux gilets jaunes au Covid à l'Ukraine on est dans une forme d'accélération de l'histoire.
Finalement.
Exactement. Et donc du coup, voilà, sur cette question-là, ça pose la question effectivement de l'accélération de la transition écologique et de sa capacité, de son accompagnement social, qui est de plus en plus criant et qui pose des contradictions énormes et dans lesquelles il faut se décider extrêmement vite, puisqu'effectivement, les sanctions, c'est maintenant, l'augmentation des prix, c'est maintenant. Et donc du coup, l'accompagnement social, il faut le décider maintenant. Enfin, il faut le préparer maintenant, y compris pour l'avenir.
Je pourrais me faire un peu cynique en disant que finalement cette crise permettrait d'accélérer ce qu'on n'a pas pu faire pendant des années. Évidemment, je mets tous les guillemets qui s'imposent.
En tout cas, oui, il y a des situations d'acuité là qui vont se poser et qui se posent très clairement. Et d'ailleurs, c'était déjà le cas encore une fois avant ce conflit ukrainien, lorsque voilà la hausse du cours du baril, la hausse du prix de l'énergie en fin d'année dernière a amené à cette question de l'encadrement, en tout cas du contrôle des prix sur le carburant, ou finalement qui a amené à la prime pouvoir d'achat de fin d'année. Oui, effectivement, on est dans un moment où l'augmentation, ce qui pèse sur le pouvoir d'achat amène à des décisions d'urgence. Voilà, évidemment. Et effectivement, comme on n'a pas préparé, ou en tout cas, on sent que les choses sont pas totalement calées sur la transition écologique et sur la manière d'accompagner notamment les plus fragiles dans cette transition-là. Et d'ailleurs, effectivement, les choses doivent se décider de manière urgente. Et là, ça renvoie là encore à la question de la présidentielle où, pour autant, ce sont des sujets, des préoccupations majeures. Quand on demande aux Français quels sont leurs sujets de préoccupation, il y a le pouvoir d'achat, l'écologie et la santé en premier. Et on le disait, cette élection ne prend pas, alors même que les sujets de préoccupation sont majeurs. Et en tout cas, pour le peu qu'elle prend, elle ne prend même pas sur ces sujets-là. Or, il y aurait tellement à dire, tellement à préparer sur cette question. Et donc, effectivement, là, il y a peut-être une forme d'immaturité du débat public qui est aussi une incapacité aussi du camp qui est censé porter des forces politiques, et en particulier de la gauche, qui est censé porter ces questions-là de pouvoir d'achat, de transition écologique, etc., à imposer ces sujets dans le débat public.
Voilà, la gauche est un peu inexistante sur ces questions-là, faut bien le dire, en tout cas, ne les pousse pas assez. Alors, on ne va pas incriminer la gauche, hein, je crois que c'est un petit peu général et très transpartisan. Est-ce que, justement, les candidats, qu'ils soient de gauche, de droite, sont un peu hors sol aujourd'hui? Est-ce qu'on a l'impression qu'ils sont un petit peu à côté des préoccupations et qu'ils sont justement dans de la communication?
Hors sol, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un décalage entre la réalité des préoccupations de la population que toutes les enquêtes montrent, etc., avec la réalité du débat public aujourd'hui. Et donc, il y a des thématiques qui sont surreprésentées dans le débat public, même s'il y a quand même une question identitaire qu'on ne peut pas complètement qu'on peut pas nier, parce elle fait partie des questions qui sont prégnantes pour une partie de la population. Je pense qu'il y a un peu deux sujets, c'est-à-dire qu'il y a d'une part une société qui est complètement polarisée. Et donc du coup ça pose un peu la question de est-ce qu'on a encore un espace délibératif commun aujourd'hui quand une partie des Français considère que la question principale c'est l'identité, une autre partie considère que c'est l'immigration, une autre partie considère que c'est l'écologie, la justice sociale, et l'élection présidentielle c'est l'élection reine pour justement se mettre d'accord sur la question et sur une forme de réponse à apporter dans les cinq années qui viennent. Et comment se mettre d'accord sur une réponse alors même qu'on n'est pas d'accord sur la question. Donc ça, on est un petit peu dans ce moment-là. Et ensuite, effectivement, il y a dans cette polarisation-là, qui sont des blocs quasiment homogènes, dans le rapport, le traitement du débat public, où là, pour le coup, il y a une surreprésentation de certains sujets. Et donc, du coup, bah, une partie entière du corps électoral qui se sent... pas représenté par la réalité des thématiques qui sont traitées et qui sentent une déconnexion effectivement des institutions et des élites politiques traditionnelles par rapport à la réalité de leur sujet.
Eh bien, on va devoir s'arrêter là, Arnaud Bonnet. Il y aura encore eu beaucoup de choses à dire sur le monde qui nous attend. Évidemment, les lignes qui vont bouger, mais vous reviendrez, c'est promis, au micro de Bretagne 5. Je rappelle, Arnaud Bonnet, que vous êtes entrepreneur de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et vous êtes, par ailleurs, enseignant en communication politique à l'Université de Rennes 2. Et c'était à ce titre que vous étiez avec nous ce matin en direct dans Bretagne 5 Matin, malgré une extinction de voix, et je vous en remercie.
Merci à vous.
Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.